RFI 6h30 à Paris et Kinshasa 7h30 à Khartoum et Goma.
RFI Matin.
Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, les habitants de Goma se réjouissent de la reprise en douceur de la vie quotidienne.
Et de la réouverture des marchés notamment, principal moyen de ravitaillement pour beaucoup, alors que la capitale du Nord Kivu est contrôlée par le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Sur le plan diplomatique, Pékin s'aligne sur les positions occidentales. Alors qu'elle assure la présidence tournante du Conseil de sécurité, la Chine demande, entre autres, l'arrêt du soutien de Kigali au M23. Dans ce journal également, nouvelle illustration des conséquences du gel pour 3 mois de l'aide humanitaire américaine. Certains programmes vont devoir mettre fin à une partie de leurs activités. Et puis, des échéances présidentielles qui approchent sur le continent au Cameroun. L'opposant Maurice Kamto appelle ses partisans au don. Quant au Gabon, certains cadres de partis opposés à l'ancien régime soutiennent la candidature du général Brice Oligui Nguema. Il aura fallu une semaine pour que le marché Kitoukou reprenne un semblant d'activité. C'est l'un des points de ravitaillement les plus importants pour les habitants de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, sous contrôle du M23 soutenu par le Rwanda. Hier, des pirogues, tout droit venues de Minova et d'autres localités de la province voisine du Sud Kivu, sont venues approvisionner les étals au plus grand bonheur des habitants. C'est un récit signé Alexis Guilleux.
Les voix des commerçants et des clients ont remplacé le bruit des balles. Au marché Kitoukou, la boue se mêle aux pierres volcaniques qui bordent le lac Kivu. Des centaines de gomatraciens, comme Francine, sont venus se ravitailler.
Je suis venue me ravitailler avec du sombé, des légumes ou encore des haricots. Nous étions dans nos maisons depuis une semaine sans pouvoir sortir et sans nourriture. Nous sommes contentes d'avoir accès à ces denrées, même si les prix ne sont pas encore revenus à la normale. Mais nous nous réjouissons d'avoir de la nourriture.
Ayoubou Lucien est venu avec sa pirogue au marché.
Je suis armateur. Nous sommes partis à 12h et nous venons d'arriver ici à Kitoukou peu après 14h. Nous avons apporté du sombé, du maïs, des tomates et des bananes plantains.
Pour favoriser le commerce, les armateurs du port de Kitoukou, comme Emmanuel Balamiré, plaident pour la réouverture totale de la circulation sur le lac Kivu.
En tant qu'armateur, nous demandons aux autorités actuelles de rouvrir la circulation sur le lac Kivu, qu'elles assurent la sécurité, arrêtent et punissent ceux qui trempent dans des histoires suspectes.
Depuis ce week-end, la plupart des marchés de la ville de Goma ont rouvert. Un début de ravitaillement pour les habitants alors que l'eau et l'électricité sont revenus dans plusieurs quartiers de la ville.
Reprise en douceur donc des activités socio-économiques alors qu'un nouveau bilan a été dévoilé par OCHA, le bureau onusien de coordination des affaires humanitaires qui évoque pas moins de 900 morts dans les combats. En ce qui concerne les coulisses de ce conflit, l'EAC, communauté des États d'Afrique de l'Est, et la SADC, communauté des États d'Afrique australe, se sont entendus sur l'organisation d'un sommet prévu à Dar es Salaam en Tanzanie, pays membre des deux. À la manœuvre, le président kényan William Ruto, lui qui avait déjà annoncé une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame la semaine dernière, rencontre qui n'a finalement pas eu lieu. Eh bien, cette fois, Nairobi assure que les chefs d'État congolais et rwandais seront bel et bien présents. Samedi, ce sont les chefs d'État qui se réunissent. La veille, ce sont les ministres. Un dossier également scruté de près à l'international est la Chine qui préside en ce mois de février le Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, elle a tenu à le rappeler hier. Je vous propose d'écouter une partie de l'intervention de Fu Zhong, l'ambassadeur chinois à New York.
Il est possible qu'on aboutisse à une résolution. Il n'existe pas de solution militaire à ce conflit. Les pourparlers de paix constituent donc la seule issue. Et nous pensons également que l'intégrité du territoire de la RDC doit être respectée. C'est pourquoi nous exigeons le retrait du M23 et des troupes militaires rwandaises du territoire qu'ils ont occupé. Concernant les sanctions, il faut laisser cela ouvert et voir jusqu'où nous pouvons aller. Mais je pense que l'opinion dominante est que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 dans son offensive militaire.
Les propos de Fu Zhong, ambassadeur chinois aux Nations Unies, recueillis par notre correspondante à New York, Karine Houghton. Autre prise de parole remarquée hier, celle du ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dans un contexte tendu dans le pays, forcément, où un peu partout ont eu lieu des manifestations en soutien à l'armée congolaise. Et alors qu'une journée ville morte est prévue ce mardi à Kinshasa, Hier soir, il a mis en garde contre tout débordement en référence aux attaques la semaine dernière contre des ambassades et rappelé que toutes les manifestations étaient interdites jusqu'à nouvel ordre. Jacquemin Chabani.
Une action de ville morte est une action négative qui est une action de boycott. Il faut arriver à ce que nos compatriotes puissent comprendre que nous n'avons, nous, citoyens congolais, aucun intérêt à organiser un boycott ou un sabotage pendant que le territoire de la République est menacé et même occupé. Des tueries sont organisées dans nos villages, dans nos villes, par une armée étrangère. C'est le moment pour nous de rester extrêmement lucides, de nous organiser, de rester debout, actifs. Il faut que nos enfants aillent à l'école, que nos étudiants aillent dans les universités pour être formés, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avoir une économie qui produit pour pouvoir soutenir tout l'effort de guerre.
Jacquemin Chabani, ministre congolais de l'Intérieur, avec Alexandra Branjon, qui précise que plusieurs personnes avaient été appréhendées après les heures de mardi dernier et seront déférées devant la justice. Pendant ce temps, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a répondu à un communiqué de l'Alliance Fleuve Congo, auquel appartient le groupe M23, dans un communiqué dans lequel l'AFC annonce un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui. Nous sommes coutumiers de ces communiqués, la plupart mensongers. Ce que nous attendons, a-t-il ajouté, c'est le retrait des troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en RDC. Félix Tshisekedi, le président, a de son côté reçu les chefs religieux des églises catholiques et protestantes du pays. Elles ont présenté au chef de l'État leur projet de sortie de crise qui doit répondre, selon elle, à la nécessité de renforcer la cohésion nationale.
RFI.
C'était l'une des premières mesures annoncées par la nouvelle administration américaine après l'investiture de Donald Trump. Le 20 janvier dernier, Washington a mis fin à l'aide humanitaire. Cela représente près de 70 milliards de dollars d'aide extérieure, dont plus de la moitié gérée par l'Agence américaine pour le développement. Certes, le flou de l'administration américaine crée toujours des incertitudes, mais les ONG élèvent la voix et alerte sur les conséquences pour les populations les plus défavorisées. Parmi ces organisations, Solidarité internationale, qui compte sur l'aide américaine à hauteur de 163 millions d'euros, soit plus du tiers de son budget. C'est un sujet signé Charlotte Cossé.
Solidarité internationale a fait les comptes. Elle intervient dans 21 pays où des programmes sont financés partiellement ou entièrement par l'aide américaine, comme au Mozambique, dans le Cabo Delgado. Kevin Goldberg, le directeur général de l'ONG.
Aujourd'hui, avec ce qu'on a compris des consignes qui nous ont été données par le bailleur américain, les programmes autour de l'accès à l'eau en urgence, on peut les continuer. Par contre, tout ce qui relève de la relance agricole, donc la possibilité pour ces gens de avoir accès à des semences, développer une petite agriculture vivrière autour du camp dans lequel ils se sont regroupés, ça, ce sont des choses pour lesquelles aujourd'hui, nous n'avons plus de financement et nous avons l'obligation d'arrêter tous les projets en la matière.
Stopper toutes les activités, même si les financements ont déjà été versés, voici la consigne précisée la semaine dernière par l'administration américaine.
Ça nous amène à reprendre l'ensemble de nos budgets, à prendre des décisions parfois très douloureuses, en se séparant d'une partie de nos équipes dans certains pays qui sont sur les activités non couvertes par les exemptions. Et ça a un impact lourd sur notre organisation, mais ça a un impact encore plus difficile pour les ONG locales avec lesquelles on travaille dans nos différents terrains d'intervention. ONG qui parfois sont entièrement dépendantes du projet qu'on a avec elles et qui du coup se retrouvent en très grande fragilité.
Un flou et une incertitude qui mettent le secteur humanitaire en difficulté. Celui-ci est financé par 15 bailleurs significatifs dont les engagements sont déjà à la baisse.
Et ce gel de l'aide américaine pour 3 mois et ses conséquences sur les pays francophones, notamment la RDC et les 3 pays qui composent l'Alliance des États du Sahel. Charlotte Cossé nous en parle ce matin également dans le dossier Afrique Éco, à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. RFI 6h39 à Yaoundé au Cameroun. C'est assez rare pour être souligné. L'opposant Maurice Kamto, deuxième de la présidentielle 2018, a lancé jeudi dernier un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Il demande ainsi aux Camerounaises et Camerounais de l'aider financièrement dans sa quête de prise de pouvoir et d'ainsi mettre fin à plus de 40 ans de présidence de Paul Biya. À 7 mois de l'échéance, l'initiative est largement critiquée par le parti majoritaire favorable à un nouveau scrutin du président sortant. Ce serait le 8e à Ménitulé.
Budget estimé pour cette campagne, 6 milliards de francs CFA. Agissons ensemble pour un Cameroun fort et prospère, peut-on lire au-dessus des références de plusieurs banques locales, intitulées de compte « Mouvement pour la renaissance du Cameroun », le parti de Maurice Kamto, dont Joseph-Emmanuel Atéba est secrétaire national à la communication.
En fait, c'est le candidat qui fait l'appel, parce que ce n'est pas un parti politique qui va aux élections, c'est un candidat qui va aux élections. Donc c'est le candidat déclaré Maurice Kamto qui fait un appel à contribution pour soutenir sa candidature.
Candidature pas encore déposée, il faut attendre la convocation du corps électoral. Candidature dont la faisabilité est régulièrement mise en doute par le camp présidentiel, car le MRC n'a pas d'élu issu des législatives et municipales de 2020. Patrick Riffoé, un des communicants du parti de Paul Biya, met aussi en doute la légalité de cet appel au don plusieurs mois avant la campagne.
Il faut simplement s'assurer que ça peut se faire. En ce moment, il faut vérifier qu'il n'y a pas de financement étranger parce qu'il y a ce risque. Et enfin, troisième chose, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fonds issus de circuits illicites. C'est simplement pour que cette activité soit entourée de toutes les garanties de légalité qu'un certain nombre de vérifications vont certainement devoir être faites.
À cela, le MRC répond qu'avant de lancer son appel, Maurice Kamto a saisi les autorités dans un souci de transparence et pour que, si nécessaire, soit mise à disposition du personnel pour le contrôle des fonds.
Les explications d'Amélie Tulé. Et puis on referme ce journal chez le voisin du sud du Cameroun, au Gabon. 2025 est également une année présidentielle. L'élection est fixée au 12 avril prochain. Et bien qu'il ne soit pas encore candidat, comme Paul Biya d'ailleurs, le général Brice Oligui Nguema reçoit déjà des vagues de soutien. Certains acteurs, pourtant critiques de l'ancien régime, estiment que celui qui assure la transition jusqu'ici a déjà fait ses preuves et saura rompre avec les mauvaises pratiques du passé une fois officiellement installé à la présidence. C'est en tout cas l'avis des cadres du PLC pour le changement. Leur vice-président Nicolas Nguema est actuellement en France pour mobiliser la diaspora. Je vous propose de l'écouter, il parle de progrès concrets en 15 mois.
Bien évidemment, nous reprochons le fait qu'il y a encore beaucoup trop de pédégistes au sein de l'administration, mais ça va s'arrêter forcément très prochainement. Inéluctablement, le PDG doit disparaître du paysage politique dans notre pays. S'il est candidat, je pense que oui, il a toutes ses chances d'être élu, il a toutes ses chances de faire un bon septennat, dès lors qu'il ne sera plus entouré du PDG. Mais je pense que dans le paysage politique actuel, le général Oligui a montré ces 15 derniers mois qu'il avait les aptitudes pour. Je pense que ce sera un bon choix pour les Gabonais. De repartir au travail, d'avoir des principes, des valeurs, de l'honneur et du patriotisme qui n'existaient plus dans notre pays. On a vu les projets qui ont commencé à se faire, des endroits en pleine ville où il n'y avait pas de route. La première chose qu'il a faite, ça a été de commencer à développer ces infrastructures routières en zone urbaine, en zone périurbaine, mais le développer sur une base véridique, pas sur des maquettes comme ça a toujours été le cas ces 14 dernières années. Là, on est dans le concret.
Nicolas Nguema, vice-président du Parti pour le Changement, actuellement en France, aux côtés du secrétaire exécutif du parti Ange-Kevin Zigou. Il était joint par François Mazet. Je vous précise que le PLC actera sa position lors d'un congrès le 22 février prochain. 6h43 ici à Paris. La suite des RFI Matin, c'est avec vous, Andréane Mellard.
Merci Nemo, peace. À tout à l'heure pour un nouveau journal RFI Matin. 6h43 à Paris, prochain journal dans 20 minutes.